Mabrouk Chetouane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie chez BFTIM. On va parler avec vous de marché de perspective et aussi d'économie. Si on commence par l'économie, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'économie mondiale se porte mieux aux États-Unis, en Europe et ailleurs?
Oui, incontestablement, on a une embellie au niveau de la croissance mondiale. Une manière de le voir, c'est de regarder en fait le volume des échanges. On voit que ce dernier a progressé au cours des derniers trimestres, alors qu'on était au cours de l'année 2015 et 2016 sur un niveau assez bas finalement. Donc début 2017, on a vu une augmentation de ce volume d'export, et donc il se traduit par une meilleure croissance au niveau mondial, et donc en cascade en quelque sorte, les pays émergents bénéficient, les pays développés, la zone euro en particulier.
Pour les investisseurs depuis des mois, voire des années maintenant, c'est ce qui se passe du côté de la politique monétaire qui intéresse. Quand on voit les États-Unis, il y a un peu une différence entre le marché et ce que dit la Réserve fédérale américaine, notamment sur les hausses de taux d'intérêt. Pourquoi il y a ces hésitations?
On a un marché effectivement qui challenge en quelque sorte Madame Yellen sur ses hausses de taux. Donc on a vu aussi par le passé, notamment au début d'année, que Madame Yellen et le board du FOMC étaient en mesure de inverser en quelque sorte les anticipations de marché assez rapidement. Et là c'est le cas de nouveau puisque le marché n'anticipait aucune hausse de taux avant 2018. Et là tout récemment donc on a une inversion en quelque sorte de ces anticipations. Aujourd'hui on a une hausse anticipée pour le mois de décembre. Alors Madame Yellen, hier même à Cleveland, a indiqué que les perspectives d'inflation n'étaient pas forcément au rendez-vous. Quand on regarde effectivement l'indicateur suivi par Madame Yellen, le Core PCE, celui-ci n'atteint que 1,4% contre 2% attendus en termes de cible. Donc c'est vrai qu'on est loin du compte. Malgré tout, ce n'est pas pour autant que la Fed va se priver de ses hausses de taux, puisqu'elle anticipe des effets de second tour, c'est-à-dire des augmentations de salaire compte tenu des pressions existantes sur le marché du travail, qui vont in fine se traduire dans l'inflation sous-jacente et permettre à la Fed d'effectuer ses hausses de taux.
Donc ça va être peut-être ces aspects-là qu'il va falloir regarder de plus près dans les prochains mois.
Exactement. Courant 2018, ça va être vraiment la thématique du resserrement ou de la normalisation synchronisée des politiques monétaires, puisque on aura la BCE également, qui de son côté va réduire, poursuivre la réduction de son programme d'achat d'actifs, et mécaniquement, donc, ça va se traduire par un resserrement un peu plus synchronisé des politiques monétaires.
Justement, en Europe, on a l'impression que ça peut changer, mais c'est à pas lent comme toujours, et qu'on n'a pas un changement attendu dans les très prochains mois, fondamental en tout cas.
Non, enfin globalement, les changements fondamentaux, on va continuer sur la même lancée en quelque sorte, hein, que ce soit en termes de croissance, en matière de politique monétaire, à ceci près qu'on a Mario Draghi qui sera attendu au mois d'octobre prochain, qui va annoncer de quel montant finalement il compte réduire le plan d'assouplissement quantitatif. Donc globalement, on a quatre scénarios sur la table. Pour faire simple, on a soit 20 milliards de réduction, soit 40 milliards. Mais dans tout état de cause, la BCE restera derrière le marché obligataire, ça il ne faut pas l'oublier, que ce soit les obligations d'État ou les obligations d'entreprise. Ce qui en termes d'allocation, effectivement, sera quelque chose dont il faut tenir compte.
Là où il y a peut-être un peu moins de visibilité sur les marchés pétroliers, alors même si on commence à voir certains signes disant qu'en 2018 il pourrait y avoir quelques changements, finalement on est resté relativement bas sur ces marchés.
On est en fait, on a atteint en quelque sorte un équilibre qui est plutôt sain finalement, puisqu'on n'a pas cette volatilité qui nous a joué beaucoup de tours finalement, mais que ce soit côté producteur, côté consommateur ou même côté investisseur, cette volatilité du prix du pétrole. Aujourd'hui, on a atteint finalement une situation où l'offre et la demande semblent s'équilibrer. Les Américains, avec le pétrole de schiste, jouent la variable tampon en quelque sorte en fonction de la demande et en fonction de ce qui est produit par les pays de l'OPEP. Les pays de l'OPEP donnent une visibilité à travers les accords qui ont été conclus. Et manifestement, ils semblent vouloir les tenir, avec la Russie par ailleurs. Donc, on a finalement un espèce d'environnement relativement sain sur ce marché qui, donc, permet de voir une stabilisation du prix du baril et qui, in fine, en cascade, permet à certains pays, comme les pays producteurs, de restaurer leur réserve de change.
Alors, ça nous amène à parler des marchés émergents. On a vu les investisseurs clairement revenir sur ces marchés au cours des derniers mois, en tout cas clairement, avec peut-être le fait justement que cette hausse de taux américaine arrivait plus lentement que prévu. Ça veut dire aussi que leurs économies se portent mieux. Quelle est la situation sur ces pays émergents?
On a plusieurs aspects qui viennent effectivement soutenir les marchés, les économies émergentes et in fine les marchés. Le premier aspect, c'est celui que j'évoquais au départ, à savoir celui du commerce mondial. Beaucoup d'économies émergentes restent tributaires de ce qui se passe au niveau du cycle mondial, et clairement, donc avec des échanges plus important, on a donc une activité plus importante. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est justement cette stabilisation du prix du pétrole. Ça permet, comme je l'ai indiqué, de stabiliser les réserves de change, voire de les faire augmenter, ce qui permet d'immuniser en quelque sorte les devises émergentes face à des à-coups beaucoup plus importants comme ceux qu'on a pu constater par le passé. Et troisième point également, c'est la politique monétaire américaine, les errements entre guillemets du dollar qui aujourd'hui est sur une pente un peu glissante et qui soutient justement les bourses émergentes, que ce soit les actions ou la dette émergente. Donc clairement, en fait, nous estimons que ce cycle va se prolonger, que la glissade du dollar va se poursuivre de manière tendancielle et régulière, et que c'est de nature finalement à rester exposé sur ces classes d'actifs.
Un mot du Japon, là on a entendu récemment des nouvelles mesures peut-être de dépenses publiques, sur une économie un peu compliquée à voir, on en est où sur le marché japonais?
L'économie japonaise reste également, alors c'est une des économies, enfin c'est l'économie développée qui est la plus dépendante finalement du cycle mondial. Donc là aujourd'hui finalement on a bonnes performances de croissance hein, qui ont surpris l'ensemble des économistes et le consensus par ailleurs. Donc on a aussi quelques points de risque hein, qu'il ne faut pas oublier, donc des élections anticipées par monsieur Abe. Mais globalement, finalement, on a quelque chose, enfin, on a un rythme de croissance qui permet de soutenir les bourses. On a une politique monétaire encore ultra accommodante et qui le restera de toutes les façons, puisqu'elle a montré son efficacité par ailleurs. Et on a également donc des valorisations côté marché qui sont plutôt favorables pour cette place boursière.
Le mot de la fin, juste sur donc cette allocation d'actifs avec ce qu'on a évoqué ensemble. On voit aujourd'hui les investisseurs, ils sont tous sur les actifs risqués. On a envie de dire, est-ce que c'est pas trop risqué de ne faire que ça?
À ce stade, alors oui, effectivement, la diversification est un point important, y compris en actifs risqués. Donc aujourd'hui, clairement, nous sommes exposés chez BFTIM au sein des classes d'actifs risqués, actions, européenne notamment et émergente par ailleurs, moins sur les États-Unis à cause d'une problématique de valorisation. Y compris, nous sommes également exposés sur le crédit, donc qui, malgré des valorisations aussi importantes, bénéficiera, comme je l'ai indiqué, du soutien continu de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, effectivement, il faut être assez tactique, assez fin, puisqu'on voit que les marchés restent sensibles à des chocs exogènes. La volatilité n'est pas morte, donc comme on peut effectivement le lire à droite à gauche. Quand on a des chocs exogènes, on voit des sursauts de volatilité, ce qui pour nous représente davantage des points d'entrée que des points de réduction de nos expositions en actifs risqués.
Merci, Mauro Chetouane.
Merci.